J'appréhende de trouver la bonne personne, forcément. Je suis certain que ma ferme, dans 5 ans, dans 10 ans, elle sera pas la même qu'aujourd'hui, forcément. J'aimerais bien que la personne qui soit là ait conscience de ça et qu'elle parte de ce qui existe actuellement et puis qu'elle évolue, quoi. Qu'elle évolue dans le bon sens.
Dans 2 ans, Pierre sera à la retraite et il songe déjà à l'avenir de son exploitation agricole. Dans sa quête de successeur, une certitude, sa fille ne reprendra pas le flambeau. La succession est un enjeu vital pour maintenir une activité agricole dans les campagnes, mais la relève n'est pourtant pas assurée. Pour 3 départs à la retraite, il y a seulement 2 installations. Résultat, le nombre d'agriculteurs diminue. Avec son corollaire, la taille des fermes augmente, puisque les agriculteurs actifs rachètent bien souvent des parcelles dans le but de s'agrandir.
Aujourd'hui, 90% des exploitations agricoles françaises sont de type familial. On a 10% d'exploitations où les détenteurs du capital ne montent plus du tout sur le tracteur.
La pyramide des âges dans le secteur est telle qu'il faut s'attendre à une avalanche de départs à la retraite à court terme. Un quart des exploitations risque de disparaître d'ici 5 petites années. Pourtant, le métier, malgré sa dureté, malgré son exigence, ne connaît pas de crise de vocation. Mais les jeunes qui veulent s'installer doivent soulever des montagnes, notamment pour trouver des terres.
Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Il y a des terres qu'on a voulu me louer, mais elles appartenaient à un agriculteur qui partait à la retraite, mais cet agriculteur-là, elle voulait le céder à quelqu'un, et donc le propriétaire en place ne pouvait pas récupérer les terres. Je pense que j'aurais eu besoin d'appui, et il y a un moment où moi j'ai baissé les bras, ça ne pouvait pas tenir de toute façon.
Avec des terres hors de prix, les jeunes agriculteurs réinventent le métier et essayent, via des projets alternatifs, de s'affranchir des contraintes de la ferme traditionnelle devenue gouffre financier.
Moi, j'aurais jamais imaginé faire ça tout seul, par exemple. Emprunter 200 000 euros, par exemple, ça m'aurait fait vraiment peur. Là, à plusieurs, c'était beaucoup moins d'investissement que si on avait été sur 5 fermes différentes.
Agriculteurs cherchent successeurs, c'est un reportage de Marie-Jeanne Delepol avec Lucien Lefebvre.
Interception, le magazine de la rédaction.
Bonjour, j'allais sonner mais vous m'avez
déplacé.
Non,
oui, non, vous avez déplacé. Vous allez bien ?
Très bien, et vous ?
Pas de soucis, ça va bien. Allez-y, entrez. Allez-y, je sais pas.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis Audrey de l'Initiative Paysanne.
Très bien. Marie-Jeanne et puis Lucien qui prend le son. Qui a de la buée,
qui voit rien.
Moi, je m'appelle donc Pierre Damageux. Je viens de passer les 60 ans, déjà. Donc, je cultive une exploitation bio sur 50 hectares. Je suis installé depuis 1989 avec mon épouse. Je cultive pommes de terre, céréales, oignons. Après, j'ai une partie en luzerne, mais ça, c'est plus dans l'assolement en agriculture bio, quoi.
Du coup, votre ferme n'est pas sur place, c'est ça ?
Ah, si, c'est ça.
Elle est derrière ?
Dans la région, c'est très courant, donc les fermes en ville. On est dans une zone périurbaine, il y avait des mines de charbon auparavant. Et donc, tout le monde était un peu paysan à l'origine, et tous les paysans, tout doucement, sont partis aussi travailler à la mine. Donc il y a eu des fermes comme ça qui sont plus devenues fermes. Et puis il y en a qui sont restées, mais du coup, avec l'urbanisation, ben, elles sont restées en ville, en fait.
Est-ce qu'on va voir votre exploitation ?
Oui. Il n'y a qu'une seule ferme ici à Loos qui est vraiment isolée dans la plaine. Mais encore isolée, elle est à 200 mètres du village, quoi. Sinon, toutes les fermes sont en ville, ou en bordure.
Ils sont où, vos champs ?
Ben, mes champs, il faut sortir du village. Le matin, je prends ma voiture. Par la route, ça me fait 6-7 km. Et c'est de là que je pars travailler, quoi. Tout le matériel est concentré là-bas. On a 15 tracteurs, tout le matériel qui sert à l'exploitation agricole. L'exploitation telle qu'elle est actuellement, je pense qu'après moi, il n'y aura plus d'activité agricole. C'est ici pour s'habituer aux voitures qui passent. On n'est pas dans le calme de la campagne. Hein.
Donc Pierre, on est de retour dans votre salon. Vous allez bientôt partir à la retraite. Tout l'enjeu pour vous aujourd'hui, là, c'est de trouver un repreneur, c'est ça?
Oui, effectivement. Oui. Ben, là, j'ai commencé un peu les démarches. Alors, j'ai encore retrouvé personne, mais bon, on est en train d'essayer de travailler justement au comment faire venir un jeune ou même peut-être un moins jeune qui serait intéressé pour prendre la suite.
Et c'est compliqué de trouver un repreneur?
Il faut trouver la bonne personne. Ceci dit, il y aurait une solution beaucoup plus facile pour moi d'arrêter, ça serait de proposer la ferme à mes voisins. Et en plus, financièrement, je vais m'en sortir beaucoup mieux.
Céder vos terres à vos voisins, c'est-à-dire que vos terres servent à agrandir les voisins, c'est ce qui se fait beaucoup en fait?
C'est ce qui se fait de plus en plus. On est à peu près 14 exploitations sur le Sangoël qui restent. Quand moi je me suis installé, je pense qu'on était une petite trentaine, je pense. Beaucoup de fermes sont parties à l'agrandissement.
Et pourquoi vous ne voulez pas, vous aussi, céder vos terres à l'agrandissement? En plus, vous dites financièrement, c'est beaucoup plus avantageux pour vous?
Bah, tout dépend comment on réfléchit. Effectivement, si je réfléchis de manière individuelle, je regarde mon intérêt personnel, effectivement, ce serait sans doute la meilleure solution. Le problème, c'est que j'ai un peu d'ambition vis-à-vis du monde agricole et de l'agriculture en général. Elle ne pourra persister que s'il reste des paysans, quoi. Ben, il faut que je montre l'exemple quelque part. Ça serait effectivement mon intérêt de céder aux voisins et surtout de céder aux plus offrants. J'entends des chiffres qui abordent les 15 000 euros l'hectare. Alors c'est pas pour devenir propriétaire du terrain, c'est juste pour pouvoir le cultiver. Donc 15 000 euros, vous multipliez ça par chez moi 50 hectares, ça fait vite de l'argent, quoi. Et donc ça permet effectivement d'envisager une retraite correcte plutôt que d'avoir 600-700 euros. Enfin, les gens font vite le calcul, quelque part, et c'est très tentant.
Parce que si vous cédez vos terres à un jeune, vous les céderez à un prix inférieur, vous ferez un geste, c'est ça?
J'ai pas encore fait vraiment de calcul actuellement, mais je serai bien en deçà des 15 000 euros, ça c'est clair.
Et quelle démarche vous avez mis en place pour trouver un repreneur? Est-ce que vous avez déjà eu des candidats potentiels, par exemple?
J'ai eu des candidatures spontanées, on peut dire ça. J'ai suivi quelques formations déjà depuis quelques années. Comment on peut accueillir quelqu'un? Comment on peut estimer sa ferme? Enfin, comment faire justement pour trouver la bonne personne, quoi.
On vous sent un peu ému, là.
Oui, oui, oui. J'appréhende de trouver la bonne personne, forcément. Et je pense qu'il y a des pistes de développement et je suis certain que ma ferme, dans 5 ans, dans 10 ans, elle sera pas la même qu'aujourd'hui, forcément. J'aimerais bien que la personne qui soit là ait conscience de ça et qu'elle parte de ce qui existe actuellement et puis qu'elle évolue, quoi. Qu'elle évolue dans le bon sens.
Et avec nous ce matin, Pierre, il y a aussi Audrey Grégoire. Elle travaille pour l'association Initiative Paysanne. Donc c'est une association des Hauts-de-France qui aide notamment les agriculteurs à trouver un repreneur. Audrey Grégoire, des gens comme Pierre, vous en voyez beaucoup au quotidien?
On accompagne de plus en plus d'agriculteurs futurs cédants qui se posent la question de l'avenir de leur ferme, comme Pierre, qui n'ont pas tous des repreneurs. Parfois, le repreneur est identifié, mais il y a quand même un travail d'accompagnement à leur proposer. Donc oui, c'est un public qu'on rencontre de plus en plus.
Et aujourd'hui, combien d'agriculteurs partent à la retraite sans être remplacés?
Alors, dans les chiffres qu'on peut avoir, on estime 2 installations pour 3 départs en retraite. Donc la relève n'est pas encore complètement assurée.
Donc la conséquence, si les fermes ne trouvent pas de repreneurs, c'est que les terres sont cédées aux voisins à l'agrandissement. Donc les fermes sont de plus en plus grandes. Et pourquoi ça peut poser problème pour l'agriculture en France?
Il y a la question des emplois. Les territoires aujourd'hui nous parlent de plus en plus de relocalisation de l'alimentation. Qui produit cette alimentation? Ce sont les agriculteurs. Donc ils ont tout à fait leur place dans les dynamiques locales. Ils agissent sur le façonnage du territoire, le paysage. Ils ont un rôle aussi dans l'économie. Et puis, les agriculteurs nombreux sur les territoires ont un rôle aussi dans les dynamiques vers les transitions agroécologiques. Enfin, ce sont les premiers qui peuvent mettre en place des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Et pour ça, c'est important peut-être d'avoir des plus petites fermes de dimension moyenne que des grosses structures qui vont plutôt s'industrialiser. Donc il y a vraiment cet enjeu-là à maintenir les emplois des agriculteurs sur les territoires et à maintenir le plus possible de fermes.
Et si cette course à l'agrandissement se poursuit, qu'est-ce qu'on peut craindre dans les années à venir?
Ce qu'on peut craindre, c'est des villages sans paysans, une alimentation qui ne sera plus produite localement. C'est déjà un peu le cas globalement. Des territoires qui vont continuer à s'uniformiser et qui continuent à être arrachés, des grandes parcelles. Donc voilà, c'est un système agricole encore et toujours plus industriel. En France, on est à peu près aujourd'hui à 450 000 agriculteurs, chefs d'exploitation. Dans les 10 dernières années, on a eu une perte de 55 000 emplois de chefs d'exploitation. Le nombre de fermes diminue de plus en plus. C'est une population qui est vieillissante. Plus de la moitié des agriculteurs ont aujourd'hui plus de 50 ans et un tiers plus de 55 ans. Donc il y a vraiment un enjeu dans les 5 à 10 prochaines années à travailler sur cette thématique de la transmission pour pérenniser finalement les fermes qui, dans les 5 à 10 ans, risquent de finalement disparaître.
On est désormais à Marchienne, dans le département du Nord. On est à peu près à une demi-heure de Lille. Et on va retrouver Rémi Janssen. Il a 25 ans et il s'est installé sur la ferme de ses parents il y a 3 ans. Et là, il va nous faire visiter sa fromagerie.
Bonjour.
Bonjour.
Entrez.
On enlève nos chaussures. Hein.
Oui, il sera préférable. Je vais vous donner des sommes.
En train de nettoyer la fromagerie.
Donc là, ici, c'est la salle d'emballage. Océane, l'apprentie qui est là.
Bonjour.
Une fois tous les 15 jours, elle est à l'école du Quénois, une école fromagère. Et ici, donc, l'atelier de transformation, bah, le lait arrive directement de la salle de traite à côté. On transforme un jour sur deux à peu près. Et après, de là, ça passe dans les caves. Donc il y a deux caves différentes. Une cave un peu plus chaude à 13-14 degrés pour tout ce qui est pâte molle, les camemberts, les pavés et les tomes. Donc ici on est à 95% d'hygrométrie. Et après une cave plus sèche, on va aller voir, plus sèche et plus froide pour les pâtes cuites type mimolette et on fait également le faux vivier.
Ici c'est votre bébé, hein. C'est vous qui l'avez créé quand vous avez repris la ferme de vos parents,
voilà,
il y a 3 ans.
Quand je me suis installé avec mes parents, c'est moi qui ai créé ça pour créer un peu de valeur ajoutée sur l'exploitation. Bon bah, à ce moment-là, on va aller dehors. Non, ils sont pas méchants, mais ils montent la garde.
Les parents de Rémi ont ce qu'on pourrait appeler une exploitation française classique, une ferme de 150 hectares en polyculture élevage laitier. Ils ont des prairies pour le foin, des champs de maïs, du blé, des betteraves, du lin et un troupeau de 120 vaches. Pour Rémi, reprendre cette exploitation familiale, c'était une évidence.
Bah depuis tout petit, j'ai la passion du monde agricole. Et forcément, oui, je voulais m'installer sur l'exploitation familiale. Mais tout en la diversifiant pour créer de la valeur sur l'exploitation.
C'est-à-dire que vous ne continuez pas exactement la ferme comme le faisaient vos parents ?
Bah non, du tout. Je pense que le monde évolue et il faut essayer d'évoluer avec. Les consommateurs veulent consommer localement des produits d'où ils savent l'origine, comment ils sont produits, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On fait du lait sans OGM, on transforme sur place, on vend une partie sur place ou localement. Et puis bah, les consommateurs, on le contacte avec l'agriculteur. Quoi. Ici, j'ai une question, ils vont la poser directement à celui qui le produit.
Avant, vos parents, ils vendaient tout le lait à la laiterie. Et vous, c'est plus le cas maintenant, c'est ça ?
En effet, une partie du lait est transformée pour faire mon fromage. Je ne garde pas le même schéma qu'ont fait mes parents depuis leur installation en 90. Et en transformant ce lait, on peut dire que la boucle est bouclée, c'est-à-dire que on produit nos aliments, on nourrit nos vaches, on produit le lait est transformé en fromage, le fromage est conditionné sur place, et après il est vendu soit sur des marchés, ou je vends également beaucoup dans des fermes aux alentours qui font du détail également. Et moi, ça me permet d'élargir ma gamme de clients. S'il faudrait faire des marchés pour tout vendre, je passerai toute la semaine.
Ce que vous faites, c'est ce qu'on appelle les circuits courts, c'est-à-dire la vente directe aux consommateurs. Quel intérêt, vous y trouvez ?
on crée une plus-value sur le produit, c'est-à-dire que je décide de mon prix de vente et il y a zéro intermédiaire. C'est le gros avantage, c'est-à-dire que le prix du lait, on n'est jamais sûr de quel il va être l'année prochaine ou même le mois prochain. Il n'y a pas beaucoup de visibilité sur le marché. Et le fait de transformer, bah, on sait que le fromage, dans 10 ans, je vais le vendre le même prix qu'aujourd'hui. C'est d'autres contraintes, quoi. Il faut investir dans un labo de transfo, il faut prendre plus de risques. Des soucis sanitaires, ça peut arriver. Mais là, oui, aujourd'hui, je peux dire que financièrement, il y a plus d'atouts à transformer nos produits que le vendre à grande échelle.
Et c'est une fierté pour vous aujourd'hui de voir vos propres fromages ?
Oui, oui, c'est sûr que c'est une fierté. C'est pas évident au début de créer ces recettes. Mais une fois qu'on arrive à un produit fini qui est bon et que les clients apprécient, ça fait plaisir.
On est en plein Paris, pas très loin de la gare Montparnasse, et on va rencontrer François Pursaigle. C'est un sociologue spécialiste du monde rural.
Okay, bonjour.
Bonjour.
Oh, allez-y. Je vais vous laisser monter.
Oui.
Parce que je suis au 6e et l'ascenseur est petit.
D'accord. Distanciation oblige.
Non, mais pas, c'est surtout qu'on ne rentrera pas à 3.
Ah oui, à ce point-là. Ah oui, on a fait tout dans la.
Vous voyez, c'est un peu 6e.
Ah oui, c'est un ascenseur qui fait 1 mètre carré.
François Pursaigle, professeur des universités à l'Institut National Polytechnique de Toulouse.
La particularité du monde agricole, c'est sa forte reproduction sociale. Pendant longtemps, les fils et les filles d'agriculteurs devenaient agriculteurs. Cette dynamique-là, est-ce qu'elle est en train de disparaître ?
Oui et non. La plupart des jeunes et moins jeunes qui reprennent une exploitation agricole sont plus ou moins issus des mondes agricoles. On a aujourd'hui 30% d'installations qui sont réalisées dans ce qu'on appelle hors cadre familial, mais quand on regarde de près, la plupart même de ces hors cadres familiaux sont plus ou moins issus du monde agricole. On retrouve des petits-fils d'agriculteurs, des neveux d'agriculteurs, et on a aujourd'hui encore 80% des agriculteurs qui sont enfants d'agriculteurs.
Pour autant, ça ne suffit plus aujourd'hui.
Non, aujourd'hui, on voit bien que la profession est dans l'incapacité de s'auto-renouveler. Même si on dispose d'une exploitation qui peut être considérée comme rentable, l'installation ne va pas de soi. Alors, cette installation ne va pas de soi pour les enfants d'agriculteurs, mais elle ne va pas de soi non plus pour les agriculteurs eux-mêmes, qui ne font pas forcément de l'installation ou de la transmission un projet pour leurs enfants. Et ça, on oublie souvent de le dire. Très souvent, les agriculteurs vont dire à leurs gamins « Fais autre chose que mon métier. »
Quand vous regardez les chiffres de nombre d'agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les prochaines années, est-ce que vous êtes un peu affolé ?
Oui, demain, les Français peuvent se réveiller avec une agriculture sans agriculteurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que effectivement, la production agricole peut être portée par des salariés, par des associés collaborateurs ou alors par des investisseurs qui ne monteront pas sur le tracteur. Aujourd'hui, 90% des exploitations agricoles françaises sont de type familial. À côté de ces 90% d'exploitations familiales françaises, on a 10% d'exploitations où les détenteurs du capital ne montent plus du tout sur le tracteur. Ce sont ces exploitations qu'on va retrouver dans les grands vignobles du Bordelais, en Champagne. Et ce sont des exploitations qui s'éloignent en tout et pour tout de l'exploitation familiale classique.
Donc il y a des nouveaux visages de l'agriculture aujourd'hui.
Oui, l'agriculture, c'est la fin des modèles. Il n'y a plus le modèle de l'exploitation familiale avec un papa, une maman et un fiston qui va reprendre. Aujourd'hui, quand ils décident de s'installer, qu'ils soient fils d'agriculteurs ou pas, la plupart des repreneurs réinventent le métier. Aujourd'hui, vous avez 30% des jeunes de moins de 40 ans qui font le choix de s'installer et décident de garder un pied dans une profession extérieure. Donc on voit bien que l'entrée dans la profession agricole, elle est faite aussi d'hésitation. On veut s'assurer effectivement qu'on pourra s'en extraire si jamais sur le plan économique ça n'allait pas, ou si parfois eh bien le conjoint ou la conjointe avait un autre projet professionnel. Donc le mot même d'installation peut effrayer de nouvelles générations. Ce qui permettra, à un moment donné, de renforcer l'arrivée de nouveaux acteurs dans la profession agricole, c'est la capacité qu'aura la profession agricole à montrer qu'elle est capable d'accueillir, mais qu'elle est capable aussi d'offrir à ces jeunes de la mobilité sociale et de la mobilité professionnelle. L'agriculture ne doit pas être présentée comme un enfermement, comme une assignation.
Même si 200 fermes disparaissent chaque semaine en France, le métier d'agriculteur attire encore les plus jeunes.
Bonjour, on a rendez-vous avec Elisabeth Saint-Guilly.
Tout ce que je sais, c'est que Madame Saint-Guilly est en salle C4.
Parfait.
Voilà,
à tout à l'heure.
Marie-Jeanne Delepol a maintenant rendez-vous au lycée agricole des Trois Chênes, au Quesnoy, dans le Nord.
Il y a plein d'élèves qui sont en train de nous regarder depuis la fenêtre de leur classe.
Où les jeunes veulent décrocher le sésame pour l'installation, c'est le BPREA, brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, et pour ensuite recevoir la DJA. Ce sont des aides précieuses pour les jeunes agriculteurs.
Interception sur France Inter.
Vous avez sorti une feuille, un crayon, votre calculatrice?
Tout à fait.
Donc, je vais vous écrire au tableau des intitulés et des sommes, et vous devrez dire si c'est dans un bilan ou un compte de résultats.
Nous sommes au fond d'une petite classe dans un cours d'économie-gestion.
Les ventes de viande ovine, 3500 euros hors taxe. On a payé le salaire de l'apprenti, et sur l'année, ça nous a coûté 11 300 euros.
C'est vraiment un tout petit effectif face au tableau, 4 étudiants qui prennent des notes.
Ok, donc est-ce qu'il y a un volontaire pour donner une réponse?
C'était quoi la question?
Les ventes de viande ovine, donc des ventes d'agneaux.
C'est la rentabilité.
C'est la rentabilité, oui, très bien, t'es dit. Donc on le met dans le compte de résultats. Le salaire de l'apprenti, où est-ce que vous le mettez?
Bah, est-ce qu'il est rentable, notre apprenti? Ça se déduit de notre compte.
Ouais, c'est une charge que je dois payer tous les mois. Et donc, je la mets dans le compte de résultats aussi.
Oh ouais.
D'accord. Et pour connaître ma rentabilité, on fera les produits,
moins les charges. Ah, c'était intense.
Alors, Elisabeth Saint-Guilly, on a suivi un cours avec vous. Qu'est-ce qu'on apprend finalement aujourd'hui aux agriculteurs de demain? Quelle vision du métier on leur donne?
Eh ben, la vision, c'est eux qui la feront. Nous, l'objectif, en fait, c'est qu'ils soient capables de gérer leur ferme. Donc, la première chose, c'est qu'ils apprennent à produire. Donc, tout ce qui est sciences du sol, agronomie, production animale, production végétale, biologie. Alors, le BPREA, depuis 2017, il y a une importance de l'agroécologie. Donc, on pense écosystème, on pense environnement, lien entre les productions animales et végétales, durabilité, ne pas épuiser les ressources naturelles, le sol, la qualité de l'eau, etc. Ça, c'est vraiment le gros morceau. Ensuite, deuxième gros morceau, c'est gérer, savoir gérer les salariés. Faut-il s'associer? Avec qui? Comment gérer les relations avec son associé? Voilà, ça, c'est pilotage, organisation du travail. Il y a une partie comptabilité-gestion, donc clairement, ils vont pas devenir comptables. Le but, c'est qu'ils sachent lire leurs documents de gestion et qu'ils sachent s'en servir pour prendre des décisions éclairées.
Donc les cours, aujourd'hui, ne ressemblent plus du tout aux cours d'il y a, par exemple, 20 ans ou 50 ans. Les enseignements ont évolué pour essayer de s'adapter aux évolutions du monde agricole?
L'enseignement agricole, on a cette chance, c'est qu'on est un tout petit monde avec peu d'effectifs et une grande réactivité. On dépend du ministère de l'Agriculture, c'est pas l'Éducation nationale, et il y a une grande liberté. Et à chaque fois qu'il y a eu un changement dans la société, l'enseignement agricole s'est adapté. Parfois même plus vite que les agriculteurs. Par contre, les gens qu'on forme en lycée agricole, il y a quand même une grande majorité, même si ça change, qui sont des enfants d'agriculteurs. Et là, il y a beaucoup plus de résistance au changement social. Et en gros, par exemple, sur l'agroécologie, moi, ça me semble évident. Je suis ingénieur en agriculture. Et c'est évident qu'il faut penser écosystème, voilà, et durabilité. Bon, je pense que j'ai certains collègues formateurs ou profs pour qui c'est plus difficile. Et puis, dans les parents agriculteurs, il y a parfois des grosses réticences, donc ça fait débat. Et d'ailleurs, dans la classe, en BPREA, quelque part, on a des apprentis qui sont en élevage laitier de grande taille, avec des robots, des gens qui veulent se reconvertir et qui veulent élever quelques chèvres en faisant des fromages ou des savons avec le lait. Donc, pas du tout le même type d'agriculture, en vente directe, transformation, voilà. Et puis, troisième élément du débat, bah, nous, on a une ferme d'application. C'est une cinquantaine d'hectares qui passent en bio et de la transformation fromagère. Mais on ne dit pas que tout le monde doit faire pareil. Voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est de questionner en le faisant. Donc, en fait, personne n'est d'accord dans la classe et c'est ça qui est intéressant. Je trouve que le débat sur les différents types d'agriculture, il est souvent simplifié et du coup, on est manichéen. Et moi, mon rôle en tant que formatrice ici, c'est qu'en fait, eux, ils débattent entre eux, les apprenants, et avec les professionnels, les agriculteurs qu'on rencontre. Et puis, bah, après, c'est à eux de faire leur chemin. Et tant mieux, j'ai envie de dire, si y a des projets très différents et des visions de l'agriculture et du monde très différentes.
Ben, moi, c'est Emmeline Leclerc. J'ai 22 ans, bientôt 23. Je viens d'un bac littéraire. J'ai fait une licence de sociologie histoire. Et cette année, qui était charnière, notamment avec le Covid, a fait que je me suis remise en question, que j'essaie de chercher un peu des formations pour travailler dans le monde animal. Je connaissais pas du tout le monde agricole, je suis pas du tout du monde agricole de base, voilà. Et puis, je suis arrivée, j'ai commencé les cours. J'ai fait un stage notamment dans une grande exploitation où il y avait 160 vaches laitières, 460 bêtes au total. Donc vraiment grosse exploitation. Et au final, je me suis plu et ça m'a remis en question sur mes projets. Parce que de base, j'ai un projet d'élevage félin. Et du coup, cette année, je vais vraiment prendre tout ce qu'il y a à apprendre dans cette formation. Et c'est aussi ce qui est positif dans cette formation, c'est que on voit beaucoup de choses, quoi.
Et c'est pas un métier qui vous fait peur, du coup, agriculteur ?
Peur, oui. Peut-être après, sur les projets, sur après les installations, comment trouver des terres, parce que c'est ça, qu'on vient pas du monde agricole. Mais sinon, après, pour le moment, personnellement, je me sens bien et je pense avoir trouvé mon chemin, quoi. Donc voilà.
Pourquoi vous avez eu envie de faire ce métier ?
Les animaux. C'est vraiment ça. Et puis après, c'est aussi un univers simple, en fait. Comparé à quand j'étais à la fac, où c'était bureau, on était enfermés, là, c'est la grande vie, quoi. Alors oui, c'est sûr, l'hiver, il fait froid. Des fois, on est trempé toute la journée. On a de la boue jusqu'en haut de la tête. Travailler avec les animaux aussi, voilà, quoi. On sent le caca. C'est tout ça. Mais au final, en fait, ça me plaît. C'est agréable.
Bon, allez, au revoir, à vendredi, soyez sages.
Au revoir.
Une fois leur diplôme en poche, les aspirants agriculteurs commencent un long parcours du combattant. Avoir envie, travailler dur, ça ne suffit pas toujours pour réussir à s'installer. Nous prenons maintenant la direction d'un magasin biologique à Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais.
Donc là, Émilie, vous êtes en train de remettre des navets dans les rayons de ce magasin bio.
Oui.
Ils viennent d'où, ces navets ?
Alors, ces navets viennent donc de la centrale d'achat et ils sont issus de Bretagne.
Ça fait combien de temps que vous travaillez ici ?
Je suis arrivée ici au mois d'avril et je travaillais dans un magasin bio avant sur Saint-Omer et Calais. Donc ça va faire à peu près 3 ans.
C'est ici que travaille Émilie, elle a 32 ans. Il y a 10 ans, elle a fait une formation agricole. Ensuite, elle a cultivé des légumes dans un espace test, un endroit qui permet d'essayer le métier avant de se lancer. Et un jour, elle a décidé de tout arrêter.
Il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que j'ai du coup décidé de tourner la page et de retourner au salariat. Malheureusement, économiquement, c'était très compliqué. Faut que ce soit rentable. Ça ne l'était pas. En parallèle de ça, la recherche de terre n'a pas forcément abouti. Cette parcelle m'était prêtée pendant 2 ans et durant ce test, je devais en parallèle trouver des terres pour pouvoir faire le transfert en fait, de cette activité. Et ça n'a pas été le cas. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Il y a des terres qu'on a voulu me louer, mais elles appartenaient à un agriculteur qui partait à la retraite, mais cet agriculteur-là voulait le céder à quelqu'un, et donc le propriétaire en place pouvait pas récupérer les terres. On pouvait s'embarquer dans une démarche d'eux, mais ça prenait je sais pas combien de temps, et Je pense que j'aurais eu besoin d'appui. Et il y a un moment où moi, j'ai baissé les bras et où j'ai dit ça ne marchera pas. Et les investissements aussi, qui étaient certainement trop importants, de toute façon, je croulais. Je n'arrivais plus à payer le loyer. Alors que j'étais sur une phase de test. Donc ça ne pouvait pas tenir de toute façon.
C'est pas le travail qui vous faisait peur ?
Non. Non, non, travailler du lundi au dimanche, c'était pas là le problème, pas pour un idéal de vie. Par contre, les investissements en face, avoir la boule au ventre, en fait, de rembourser un prêt, ça devient plus un idéal de vie. Moi, j'étais très appliquée sur le côté technique du maraîchage, moins sur le côté vente, moins sur le côté rentabilité. Je pense que j'étais pas assez préparée à ça.
Vous avez été agricultrice pendant combien de temps, du coup ?
Je sais pas si j'étais agricultrice, je pense que j'étais à l'essai. J'ai fait ça un an et demi. J'avais 23 ans. J'avais jamais fait de prêt de ma vie, Enfin, il fallait que j'investisse énormément de choses. Et quand on a commencé après à rechiffrer les investissements, on a dit mais est-ce qu'on se met la corde au cou pour un idéal de vie ? Est-ce que c'est cohérent ?
Quel regard aujourd'hui vous portez sur cette période-là ? Ça vous plaisait ?
Oui, ça, concrètement, je pense que j'ai jamais été aussi heureuse qu'à ce moment-là. C'est un des métiers les plus nobles. Enfin, voilà, de nourrir les autres. J'aurais aimé que ça dure. Après, j'ai fait le choix à un moment de tourner la page. Et elle n'est pas encore, aujourd'hui, complètement tournée. La question, elle se pose encore. Voilà. Aujourd'hui, avec mon mari, on n'a pas encore acheté de maison. Et c'est une question qui revient régulièrement. Est-ce qu'on prend une maison avec du terrain pour que tu t'installes ? C'est quelque chose de récurrent. Mais pas n'importe comment, pas n'importe quel prix.
Faisons un nouveau détour par Paris, cette fois pour s'arrêter dans les locaux de Terre de Liens. C'est une association qui aide les agriculteurs en voie d'installation à trouver des terres. L'association achète des parcelles pour ensuite les louer aux paysans qui n'en trouvent pas.
France Inter.
Bonjour.
Bonjour.
Vous m'avez entendu ?
Ouais, c'est ça.
Interception.
Marie-Jeanne Delepol a voulu en savoir plus auprès de Vincent Janot, l'un des cofondateurs de Terre de Liens.
Quand on est non issu du milieu agricole, c'est-à-dire qu'on n'est pas fils ou fille d'agriculteur, c'est quasiment impossible aujourd'hui de trouver des terres, d'accéder aux fonciers.
C'est pas impossible, mais on sait que sur les départs à la retraite, 40% des terres vont à l'agrandissement pour des voisins. 10% vont à la bétonisation, donc il y a une spéculation foncière forte déjà, il y a une orientation des terres vers des gens déjà installés. C'est quand même très 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 compliqué. On a encore une disparition des terres, une disparition des fermes, un agrandissement des fermes, une spécialisation des territoires, une concentration de plus en plus forte des exploitations avec une mécanisation galopante. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est compliqué, très très compliqué. Alors, on parle souvent de forteresse agricole, donc avec des paysans ou des agriculteurs qui veulent garder la terre pour leur famille, leur réseau. Donc l'ouverture n'est pas évidente.
On a rencontré un agriculteur du nord de la France qui nous a dit que dans son coin, les prix à l'hectare atteignaient jusqu'à 15 000 euros. Est-ce que c'est le cas aussi partout en France ?
Non, on est sur une moyenne de prix à l'hectare qui est de l'ordre de 6 000 euros. Mais ça peut aller effectivement dans le nord sur ces prix-là. Mais en Champagne, on est à 850 000 euros l'hectare. Donc ça va dépendre. Moi, je vis dans le Saint-Africain. On est sur des terres en Causse. Ça peut être 500 ou 1 000 euros l'hectare. Donc c'est vraiment en fonction du territoire, du type de terre. Donc ça, on a la chance quelque part en France d'avoir une structure qui s'appelle les SAFER, qui régule le prix du foncier, qu'il n'y a pas dans d'autres pays européens où il y a plus de spéculation foncière. Ceci dit, on doit encore faire beaucoup d'efforts pour limiter cette spéculation foncière et permettre au plus grand nombre, toujours pareil, d'y avoir accès.
Pour vous, il n'y a pas assez d'aide à l'installation pour les jeunes et les moins jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture ?
C'est peut-être pas le niveau des aides, parce que quand on voit le niveau des aides de la politique agricole commune ou le niveau des aides du ministère de l'Agriculture, c'est l'orientation de ces aides qu'il faut revoir. Par exemple, la politique agricole commune de l'Europe, elle va sur des aides à la surface. Donc forcément que les gros, ils veulent grossir. Parce que plus ils sont gros, plus ils touchent des aides. Et on sait que simplement 20% des agriculteurs touchent 80% des aides. Donc il y a un souci. Ça, c'est au niveau européen. Si on regarde au niveau national, on sait que 68% des installés en 2018 sont des non-aidés, ne touchent pas la dotation jeunes agriculteurs. Ils ne sont pas forcément pas aidés, parce qu'il y a des régions, il y a des politiques régionales, il y a des politiques locales, mais ils ne touchent pas la dotation jeunes agriculteurs. Donc il y a un souci. C'est pas normal que seulement un tiers des agriculteurs qui s'installent touchent les aides de la DGR. C'est pas possible.
Parce qu'il faut avoir moins de 40 ans.
Il n'y a pas que ça. Il faut avoir moins de 40 ans, il faut avoir une formation. Alors nous, on pousse les gens à aller vers de la formation, un diplômante, un brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole, etc. Mais c'est vrai qu'on accueille de plus en plus de gens qui ont plus de 40 ans, parce que la durée de vie a augmenté. Donc il y a un vrai enjeu à avoir une politique agricole ambitieuse, mais pour une agroécologie paysanne qui soit soutenable, en tout cas, qui soit vivable.
Bienvenue.
Merci.
Ton prénom ?
Marie-Jeanne.
Du coup, c'est moi qui t'as eu au téléphone.
Ouais.
Mon prénom, c'est Steve. Je suis fromager. J'habite ici avec ma compagne et mes deux enfants.
Nous sommes à Montflour, en Mayenne, c'est à 10-15 minutes au nord de Laval. Autour de nous, des prairies à perte de vue, plusieurs bâtiments en pierre. On a rendez-vous avec Radi & Co, une ferme collective. Ici, 5 jeunes agriculteurs se sont installés ensemble en 2011.
Alors là, on se trouve dans le cœur de la ferme. Vous avez la fromagerie qui se trouve de ce côté-ci. La salle de traite qui est juste à côté. Donc là, on a la maison collective. Avec dortoir, salle de bain, bureau. Et si on avance un petit peu par ici, donc ça c'est la partie élevage, les tunnels ou les serres de légumes se trouvent derrière.
Vous avez combien de surface ?
Ça doit faire 45 hectares en tout.
Et ici vous produisez vraiment de tout ?
C'est ça, oui. On fait ce qu'on appelle une activité de polyculture élevage. On fait du lait qui est transformé en fromage. On produit les farines, enfin les céréales qui sont ensuite amenées à la meunerie qui se trouve là avec les moulins et on en fait la farine. Et la farine sert à faire le pain au four à pain qui est juste à côté. Tout ça c'est vendu dans un rayon de 20 km maximum et le reste c'est vendu dans un rayon de 10 à 15 km. Salut! Donc là il y a Estelle, c'est l'atelier boulangerie.
Bonjour,
ça sera ici.
Bonjour, bienvenue.
Merci.
Enchanté.
Alors là, du coup, je suis en train d'allumer le feu. Et du coup, pendant la chauffe du four, ce que je fais, je façonne. Et là, donc, je vais diviser la pâte en bâtons de 580 grammes que je vais ensuite façonner.
Donc Estelle, vous êtes la petite dernière ici, vous venez tout juste d'arriver chez Radi & Co, c'est ça? Ça fait seulement quelques mois?
Ça fait même quelques jours, parce que je suis officiellement associée depuis le 1er janvier. Donc avant, je faisais de l'accompagnement de projet dans l'économie sociale et solidaire. Et j'ai décidé de faire un BPREA dans le Tarn, ça s'appelait du grain au pain. Donc je me suis formée sur la boulangerie paysanne. Et ben, je suis hyper contente. Il y avait aussi cette envie de faire un métier plus manuel, artisanal, plus concret. Enfin, j'avais pas envie de me former, de faire une formation agricole et ensuite d'avoir un fonctionnement assez classique, de m'installer seule. Enfin, j'avais vraiment envie de découvrir un fonctionnement collectif à l'échelle d'une ferme.
Pourquoi vous vouliez vous installer en collectif ?
Et ben, je trouve que ça représente plein d'avantages. Ben, de mutualiser la production. Enfin, sur le plan agronomique, d'avoir une cohérence à l'échelle d'une ferme en polyculture élevage, d'avoir des rotations longues, une production diversifiée, et aussi de partager les responsabilités, en fait. C'est vrai que les prises de décision sont prises collectivement, dès qu'il y a un pic de travail, on peut se soutenir les uns les autres, et puis de ne pas être isolé. Enfin, en fait, moi, la vision que j'avais du métier d'agriculteur ou d'agricultrice, pour moi, ça s'était vraiment associé à un rythme, un mode de vie harassant, des conditions de travail vraiment dures, et puis pas de vacances, pas de week-end, et puis des personnes souvent très isolées. Donc je pense que le collectif, il permet ça aussi. Et sinon, bah, les astreintes quand même, les astreintes qui sont tourmentes.
Donc en fait, vous avez des tours de garde, c'est ça ?
Ouais, des tours de garde, tout à fait. La personne qui est d'astreinte fait les deux traites, donc le samedi et le dimanche. s'occupe de faire quelques récoltes en maraîchage s'il y a besoin, d'ouvrir ou fermer les serres et de faire le levain le dimanche. Donc ça permet aux uns aux autres de partir en week-end. Donc 4 week-ends toutes les 5 semaines, donc c'est plutôt chouette. Et c'est vrai que dans le milieu agricole, c'est quand même très, très novateur. Il n'y a quasiment aucun éleveur qui peut partir en week-end, et même en vacances.
Sauf ici.
Sauf ici.
Alors, on cherche Marc. Là, on est devant l'étable, il y a une quarantaine de vaches. Donc, toutes les vaches ont des cornes, il y en a des blanches et noires, il y en a des rousses. Et là-bas, il y a les petits veaux. Marc, vous êtes en train de remettre du foin à vos vaches.
Ouais. Elle, je trouve que c'est une des plus jolies. Ormo, elle s'appelle. Elle va faire son premier veau là au printemps. C'est très belle Ormo. C'est celui qui trouve le veau qui donne le nom. Alors c'est souvent moi. Venez les cocottes. Voilà.
Allez, je m'appelle Marc. Je suis éleveur ici, de ces belles Bretonnes pinoires, depuis une dizaine d'années. J'ai 37 ans. Moi, j'aurais jamais imaginé faire ça tout seul, par exemple. Emprunter 200 000 euros, par exemple, ça m'aurait fait vraiment peur. Là, à plusieurs, c'est le partage des responsabilités. Et c'était beaucoup moins d'investissement que si on avait été sur 5 fermes différentes. Il y a quelques tâches aussi mises en commun qui sont simplifiées. La comptabilité, par exemple, il y en a un qui s'y colle. Et tous les autres en profitent. Ou les repas du midi, on mange ensemble le midi. À tour de rôle, chacun fait à manger. Là, ce qu'on vit depuis 10 ans ici, c'est très dense en termes de relations humaines. Faire ça tout seul, ça me paraissait une montagne. Et puis finalement, j'aurais trouvé ça chiant, je crois.
Là, ça fait bientôt 10 ans que la ferme collective a été créée. Quel bilan vous tirez? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça fonctionne financièrement?
Sans aucun doute, ça fonctionne financièrement. On a passé ces 10 premières années. Là, on a fini de rembourser tous les premiers emprunts. On a commencé à se prélever très peu. On a vécu sur les aides agricoles. Sans elles, ça aurait été difficile. Mais là, depuis 6 ans, où on se prélève 800, 900 ou 1000 euros par mois, sans compter tous les avantages en nature qu'on a sur la ferme. C'est-à-dire qu'on n'achète pas de nourriture. Pour certains, on habite sur la ferme dans des habits allégés. Donc finalement, on a des vies simples qui coûtent pas cher. Et 1000 euros, pour faire face à ça, on se refuse rien. On est dans l'opulence un petit peu, quoi. Mais le système économique fonctionne bien. La grosse différence avec l'agriculture classique, je pense, c'est la diversification, et la transformation des produits et la vente directe et finalement la valeur ajoutée qui nous revient tout de suite.
Ici, vous êtes 5 associés, vous avez aussi des salariés. Vous faites vivre combien de personnes? Et avant vous, combien il y avait de personnes qui vivaient de cette ferme-là?
Cette ferme, la Goronnière, elle faisait 60 hectares en 2010 avant qu'on la reprenne. Et c'était un couple qui vivait dessus. Depuis 3 générations d'ailleurs, on s'est installé à 5. Dès la première année, on a dû embaucher pour faire face à la masse de travail de la transformation de la ferme. Et là, maintenant, on est quasiment une dizaine de personnes. Et ça représente entre 7 et 8 emplois selon les années. Avec une surface moindre de 25%, parce qu'on n'a que 45 hectares.
Donc en fait, sur une surface où vivaient 2 personnes seulement, vous arrivez à tirer 7 ou 8 salaires.
Ouais, c'est ça. Et il y a un autre point dont je n'ai pas parlé, c'est que la ferme est pas, on n'est pas propriétaire de la ferme. On est locataire, et être locataire, ça coûte beaucoup moins cher que d'être propriétaire sur une ferme, grâce à la foncière Terre de Liens qui est propriétaire de la ferme.
Marc, est-ce que vous avez dû vous battre pour créer ce projet, ou est-ce que vous avez été bien accueilli en 2011 quand vous vous êtes installé?
Alors c'est très variable, les réactions. On s'est senti vraiment soutenu par notre réseau en Mayenne, que ce soit les paysans bio ou des militants politiques. On n'a pas du tout eu de mal à trouver des clients, par exemple. Ça, c'était très facile. Après, par les banques, ça a quand même été compliqué. C'est-à-dire qu'ils n'y croyaient pas du tout. Très peu d'expérience, zéro de capital, pas issu du monde agricole, le bio, la vente directe, c'était que des tares pour eux. Donc on a fait plusieurs banques qui nous ont dit non, ou qui nous demandaient des garanties honteuses. Donc avec les banques, ça a été dur, et c'était surprenant pour le monde agricole. Déjà, on n'était pas issu du milieu agricole, donc ils nous appelaient des NIMA, des non-issus du milieu agricole. Puis s'installer à 5 pour eux, forcément, on allait se prendre le bec et on allait se séparer très rapidement. Avec les organisations professionnelles agricoles, Ils étaient très aimables en façade, mais ce qu'ils se disaient sur nous, c'était qu'on ne tiendrait pas 2 ans.
Et 10 ans après votre installation, vous ne regrettez pas de vous être installé ?
Non, mais je suis très mauvais, moi, pour ça, je ne regrette jamais rien. Non, et puis sincèrement, je ne regrette pas, parce qu'on a vécu des années très riches, pas sans difficulté. Il y en a eu, soit des trucs juste familiaux, personnels, soit dans nos relations. Mais tout le monde est très satisfait. Enfin, là, en fait, on a fêté nos 10 ans là, au premier de l'an, et on voit bien l'émotion sur les visages. C'est qu'on est content d'être là, on est content de ce qu'on a parcouru. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 200 familles qui se nourrissent chez nous, dans un rayon de 10-15 km. On a formé plein de gens, dont certains se sont installés, dont des collectifs. On a bien mangé, on donne de la bonne bouffe à nos gamins. C'est super.
Salut la compagnie.
Ouais,
c'est parti. Bonne route.
Un grand merci.
Un de ces quatre. Vous nous envoyez un petit mail pour nous donner la date ?
Ouais.
Agriculteur cherche successeur. C'était un reportage de Marie-Jeanne Delepol avec Lucien Lefebvre à la prise de son, Violaine Ballet à la réalisation, avec l'aide de Martine Messonnier, mixage Jean-Benoît Tétu. Ce reportage est disponible à la réécoute sur franceinter.fr.